Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre en live et sur place organisée par la Bibliothèque publique d'information. Ce soir, nous allons conclure le cycle Le féminisme n'a jamais tué personne qui a commencé cette année dès le mois de janvier. Donc, on est ravis de pouvoir le conclure en beauté dans la salle, puisque les séances précédentes n'ont malheureusement eu lieu qu'en visio. Vous pouvez d'ailleurs toutes les retrouver sur le compte Facebook de la BPI ainsi que sur notre web télé. Alors, ce soir, nous allons aborder des questions de graphisme, d'esthétique et de genre, bien sûr, de graphisme inclusif. Alors, contrairement à ce que vous avez peut-être vu affiché sur le générique, le titre de la rencontre est bien « Construire de nouveaux imaginaires inclusifs ». Esthétique, genre et graphisme. Et donc pour aborder ce sujet, dont je pense que je n'ai pas besoin de détailler de quoi on va vraiment parler ce soir, le titre est assez parlant, je suis ravi d'accueillir Enzo Le Garec, Iris Schleinitz et Kiemis, que je ne présente pas plus en détail puisque je laisserai la parole à Clémentine Labrosse le soin de les présenter en détail. Je remercie bien sûr notre partenaire qui a été fidèle partenaire sur l'ensemble du cycle, qui est la newsletter Les Glorieuses, à laquelle bien sûr vous pouvez vous abonner en ligne. Et puis bien sûr pour cette rencontre, nous sommes aussi en partenariat avec la revue Censored, puisque pour vous terminer de vous présenter, Clémentine, vous êtes journaliste et vous êtes justement la rédactrice en chef de la revue Censored. Alors avant de vous laisser la parole, Clémentine, j'invite bien sûr le public dans la salle à préparer déjà les questions qu'il pourra poser à la fin de la séance, y compris le public en ligne sur le Facebook de la BPI à poser ses questions via le fil de commentaires. Nous pourrons en prendre quelques-unes à la fin de la séance que nous pourrons retransmettre aux intervenants. Très bonne soirée.
Merci beaucoup Sébastien et bonsoir à tout le monde. Bonsoir Enzo, bonsoir Iris et bonsoir Kiemis. Bonsoir. Je suis ravie de clore ce cycle de la BPI avec vous et également de clore le cycle Censored qu'on avait baptisé puisque nous débordons de révolte et de poésie. Et donc c'est un peu de ça d'ailleurs dont on va parler ce soir. Cette conférence « Construire de nouveaux imaginaires inclusifs » c'est un sujet qui est assez cher à Censored. Pour refaire une petite représentation brève du magazine, c'est une revue que j'ai cofondée avec ma sœur Apolline, qui est dans la salle juste à côté, qui parle de féminisme, d'art, de culture, et qui est un objet papier. Et la question de l'esthétique et de l'inclusivité sont vraiment des choses importantes pour nous, puisqu'on essaye vraiment de créer la forme et le fond, et le fait que ce soit aussi important l'un que l'autre. Donc je vais tout de suite commencer par vous demander individuellement de vous présenter, parce que je pense qu'on ne se présente pas mieux que par soi-même. Alors Enzo, si tu veux commencer. Ouais.
Alors je suis Enzo Le Garec, je suis en master aux Beaux-Arts de Besançon et je suis membre de la collective Cybersistas, qu'on va peut-être présenter. Enfin Iris, je te laisse peut-être, comme tu veux, présenter la collective.
Moi je suis Iris du coup. Et je suis au Beaux-Arts de Lyon en master. Et du coup, on fait partie tous les deux de la collective Cybersistas et plus précisément du Club Maed, qui est un club de recherche sur le langage inclusif et qui a été principalement basé sur la recherche du langage inclusif à démocratiser au sein des écoles d'art. Si tu veux en dire un peu plus.
Non, ça va, c'est très bien. Merci.
Merci. Kiemis.
Bonsoir. Déjà, je vais commencer par vous dire merci de m'avoir invitée et merci à tous et à toutes d'être là. Donc moi, je suis Kiemis. Je suis une poétesse et autrice afroféministe. Donc j'ai écrit mon premier recueil en 2018 qui s'appelle « À nos humanités révoltées », qui a été d'abord publié aux éditions Métagraph et qui vient d'être republié, bon là ça fait un certain temps, donc en septembre 2020, aux éditions Premier Matin de novembre.
Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par redire un petit peu le texte de présentation de ce soir, et puis on enchaînera avec les questions. Donc, je l'ai pris sur mes petites notes, donc je le lis. Artisan, artisane des mots et des images, Yel nous plonge dans des imaginaires repensés par le prisme du genre. Dans le sillage de glyphes, de langage épicène, de ligatures, mais aussi par la sonorité des mots féminins, masculins, des formes et des couleurs, du moche et du beau, de la poésie, des actrices de ce monde culturel et artistique questionnent les liens entre esthétique et société patriarcale, le langage comme enjeu de pouvoir pour montrer que l'inclusivité n'est pas qu'une affaire de linguiste. Alors, je voulais commencer cette discussion en citant une personne qui m'avait pas mal inspirée pour cette table ronde. C'était ce qu'avait dit Virginie Despentes il y a quelques mois. Je crois que c'était d'ailleurs ici, ou au Centre Pompidou en tout cas, et qui avait dit « Le patriarcat est une narration et il a fait son temps ». Et en parlant de narration, en fait, je trouvais que la question d'esthétique, c'était un peu la même chose aussi, finalement, ça rentrait dedans, c'est-à-dire le patriarcat est aussi une esthétique et elle a fait son temps. Je ne sais pas si vous voulez rebondir tout de suite dessus.
Je ne sais pas si elle a fait son temps pour l'instant, j'espère. J'ai de l'espoir. Pardon. Mais oui, une esthétique dans le sens où on a tout un système de codes, de représentations qui sont normés et qui font esthétique, en tout cas, et qu'on, je pense, ici, on essaie de déconstruire. Je ne vois pas ce que je peux rajouter dessus. Mais...
Bah, que c'est en fait une forme d'esthétique et que, heureusement, il y en a plusieurs.
Je vous ai décrit comme des artisanes et artisans de l'imaginaire et des mots. Est-ce que ça vous retrouvez là-dedans, l'artisanat des mots ?
Assez oui. J'ai été à une autre conférence. Je ne sais pas si ça se fait de citer une conférence à une autre conférence. Enfin bon, bref, où il y avait une poétesse qui s'appelle Mia Brion. Et qui avait utilisé l'expression que je trouvais très belle de travailleuse de l'écrit. Et j'aimais beaucoup en fait cette expression, cette idée justement de sortir d'un carcan dans lequel je me reconnaissais pas, d'avoir un côté un peu plus prosaïque, un peu plus de mettre en valeur en fait ce côté un peu labeur en fait presque un peu façonnage, j'aimais beaucoup, et du coup artisane, ça m'évoque aussi un petit peu ça, ouais.
Ouais, non, c'est hyper intéressant aussi, enfin ce que tu dis, enfin dans ce que ça met en lumière, ça met aussi en lumière que en fait c'est un travail de fond, de longue haleine aussi, et qu'on donne beaucoup aussi pour ça.
Oui, mais ça d'ailleurs c'est un sujet dont on parlera un peu plus tard, qui est un peu ce truc de dire mais l'écriture inclusive on s'en fout, non, enfin il y a des choses plus urgentes à traiter, enfin on y reviendra, parce que je veux pas m'embrouiller dans mon fil de questions, mais en tout cas ouais, c'est intéressant de voir comment, enfin les rhétoriques qu'il y a autour de ça. Je voulais enchaîner directement avec tout le monde, mais peut-être un petit peu plus avec vous, Enzo et Iris, en tant que membre de l'association donc Cybersistas et en fait aussi en tant qu'étudiante des Beaux-Arts. D'ailleurs, j'ai fait défiler pile à ce moment-là. Moi, quand j'ai fait mes recherches aussi, je m'étais rendu compte d'une chose, c'était qu'aux Beaux-Arts, il se passait beaucoup de choses aussi, et avec une vision artistique et très politique aussi. Est-ce que vous reconnaissez un peu dans cette histoire-là et ces affiches, l'imagination au pouvoir, ces liens entre activisme un petit peu et art ?
Ouais, alors moi, je serais quand même un peu critique sur les Beaux-Arts en 68, quand même, parce que c'était que des mecs, quasiment, assez sexistes, que sur la lutte des classes, pas tellement, enfin, on pensait pas le genre, on pensait pas la race, enfin, voilà, c'était des préoccupations qui étaient pas du tout à l'ordre du jour. Mais il y a quand même des viviers dans les écoles d'art, en termes de lutte, il se passe plein de choses, enfin, dernièrement, il s'est passé énormément de choses à Bordeaux avec Black Flower, il s'est passé des choses à Besançon aussi avec son école d'art, il s'est passé des choses à Rennes avec les mots de trop. Enfin, il y a plein d'initiatives absolument partout et il y a vraiment un vivier de lutte et des personnes qui s'engagent.
Merci. Kémis, je ne sais pas si tu veux rebondir dessus ou pas.
Moi, je suis une autodidacte, j'ai pas été dans une école d'art, donc je ne vais pas me prononcer dessus, mais le lien entre art et politique, je pense qu'il est tellement clair dans mon parcours qu'on aura l'occasion d'en parler, je pense.
Oui. Alors, justement, le point commun que je voyais entre vous, c'était peut-être que vous me contredirez d'ailleurs, mais cette question des racines, c'est-à-dire à la fois comme la poésie, qu'on peut voir comme quelque chose d'assez classique, traditionnel, enfin, en tout cas dans l'imaginaire collectif. Enfin, moi, quand j'y pense aux poésies que j'apprenais à l'école. À Victor Hugo, je sais pas, enfin, au romantisme aussi et au fait de tout de suite de relier l'amour et la poésie. Et pareil pour les mots aussi. Enfin, je pense au dictionnaire et à ces personnes qui tiennent et qui décident de quels mots on va valider dans le dictionnaire ou non. Donc, je trouvais ça intéressant de voir un peu tous ces rouages aussi, presque d'une industrie littéraire aussi, avec la question des prix. Je ne sais pas si ça vous parle un peu et si c'est quelque chose que vous souhaitez contester, vous, cette façon-là de créer, de produire.
Ben, déjà, c'est vrai que je pense que j'ai un... comment dire ça ? C'est sûr que dans ma pratique de la poésie, j'ai été influencée par penser la poésie comme étant écrite par... des gens qui sont morts il y a très longtemps, des gens qui ne me ressemblaient absolument pas. Ça ne m'empêche pas de voir la beauté, hein, et d'apprécier certaines de ses œuvres, hein, parce que j'arrive... Y a des œuvres qu'on considère comme universelles et du coup, j'arrive très bien à me voir. La problématique, c'est souvent quand, justement, en fait, l'universel, il provient que... Enfin, il est très vertical et il provient que d'un côté et on a du mal à se voir chez l'autre. Ensuite, moi, c'est vrai que j'ai un peu déconstruit ce rapport-là. Enfin, je sais pas si... Enfin, déconstruit, c'est un mot, c'est tellement maintenant chargé, on l'utilise tellement tout le temps, et je sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose, mais en tout cas, j'ai essayé d'aller chercher un petit peu d'autres inspirations, parce que aussi, je pense que j'étais dans un parcours de légitimation vis-à-vis de mon propre travail. Et en fait, ces inspirations, ben, c'était des femmes noires activistes. Je pense que c'est important de lier tout en même temps. Et qui utilisait en fait la poésie pour autre chose finalement, et on va en parler, je sais, mais je pense que c'est important de se dire que du coup quand on a des personnes qui considèrent que la poésie c'est pas un art désuet, c'est une manière de s'exprimer, c'est une manière de dénoncer, etc., et ben on a une approche de la poésie, je trouve, en tout cas mon approche de la poésie est devenue beaucoup plus vivante en fait, beaucoup plus engageante et beaucoup plus intéressante. Mais le mot intéressant est beige pour moi, c'est pas intéressant, ce que je veux dire, c'est enflammant en fait. Et donc du coup, il y a aussi parce que j'ai eu la chance, le privilège, je sais pas, d'avoir accès à ces travaux-là, j'ai aussi envie de dire, bah, en fait, la poésie, ça peut être autre chose. Ça peut être vraiment autre chose et ça peut être beaucoup plus, entre guillemets, vivant que ce qu'on peut penser, et surtout, ça peut être beaucoup plus démocratique que ce qu'on peut penser. Mais ça, je pense que ça, c'est vraiment, ça dépend aussi de des auteurs et des autrices et des artistes qui t'habitent et qui te traversent et que tu rencontres, quoi. Et malheureusement, tout le monde n'a pas accès, enfin, tout le monde n'a pas forcément le temps d'aller voir ça, et puis il y a une marginalisation de ces auteurs et de ces autrices, surtout ces auditrices.
La question du vivant, elle est assez intéressante aussi avec les mots et tous les travaux que vous faites, justement sur tout ce que vous avez expliqué un petit peu d'ailleurs, tous les glyphes, ligatures, points médians, astérisques, etc. Justement, il y a cette question de un peu subversive aussi, de vouloir changer jusqu'aux lettres et donc de faire vivre les langages. Je vais citer Yann Larue dans Libère-toi, cyborg, des éditions Cambourakis, qui dit « Traiter la langue comme un dépôt sacré dans un mausolée est le meilleur moyen d'en faire une langue morte. » Je me tourne vers vous pour que vous expliquiez, en fait, vous, en quoi consiste votre travail dans cette association, et donc Club Med plus particulièrement, mais il y a aussi Bye Bye Binary, dont Enzo, toi, tu fais partie. Voilà, comment ça se passe ?
en tout cas par rapport aux questions de réactivation, enfin ça me faisait un peu penser aussi à ce que disait Kémis par rapport à déconstruction ou réactivation. Donc je pense que dans le langage inclusif et dans notre vocabulaire, il y a vraiment une question de réactiver des choses. C'est aussi souvent le propos des détracteurs, c'est vous inventez des choses. En fait, c'est pas si vrai que ça dans le langage inclusif. Enfin, on a beaucoup de choses qui sont réactivées, qui datent du Moyen-Âge, etc. Et, Et du coup, ça, je pense que c'est important. Et puis après, nous, on aime bien l'idée que, enfin, au Club Med, en tout cas, on voulait vraiment proposer plein de possibilités de langage inclusif différentes pour avoir plein de subjectivités et que, enfin, il n'y ait jamais à un moment une forme d'injonction qui puisse arriver en mode, bon, bah, le langage inclusif, c'est le point médian ou le neutre ou Delferats ou etc. Donc, c'était un peu l'idée de démocratiser ça et de proposer plusieurs choses. Et après, ben, pour les graphismes, c'est pas moi le spécialiste.
Enfin, c'est vraiment se réapproprier ça, enfin, se réapproprier le langage, c'est aussi, ben, en fait, c'est aussi le langage par l'usage. En fait, il n'y a pas un seul langage, il y en a plein tout le temps qui changent tous les jours. Et c'est aussi comprendre ça, et en fait, on peut se le réapproprier. Et comme disait Iris, oui, on voulait vraiment pas être dans un guide qui allait pointer une bonne façon de faire, entre guillemets, une bonne façon d'écrire ou de parler en inclusif, alors qu'en fait il en existe plein et qu'on peut en inventer aussi plein d'autres. Et c'est ça qui est assez génial, et c'est de se réapproprier vraiment le langage et d'aller tricoter et détricoter dans le mot, dans la lettre, etc.
Il y a quelque chose qui m'a fait réagir quand tu disais, Iris, que les détracteurs reprochaient d'inventer. Et ça me paraît tellement aberrant, en fait. Enfin, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Hein. Tu m'excuses si je te coupe. Mais... Ça me paraît tellement aberrant de reprocher à quelqu'un d'inventer, en fait. Enfin, de se dire que c'est un défaut, en fait, finalement. De se dire, non, vous devez. Et je pense que, voilà, enfin, on va en parler tout à l'heure, mais il y a une question de pouvoir, en fait. Il y a une question de qui invente, qui a le droit d'inventer, qui a la légitimité pour inventer et pour potentiellement poser des règles. Et je pense que c'est. Parce qu'on invente tout le temps. Enfin, je veux dire, il y a des fois où. Enfin, pourquoi là, c'est problématique d'inventer, quoi?
En tout cas, par rapport à ça, nous, je pense qu'on était vraiment, comme tu dis, dans des relations de pouvoir, où on a fait des démarches à la direction, etc. Et même, c'était la première fois qu'on lançait un truc aussi gros. Enfin, ça fait partie, du coup, le langage inclusif, ça fait partie d'une des choses qu'on a dans notre charte des cybersystas de l'école. Et du coup, c'est la première chose qu'on a mise en place, et on voulait absolument se barricader le plus possible. Enfin, on voulait se barricader, et je pense qu'il y a aussi une question de légitimité dans ce rapport, où on est plus à même à ne pas se sentir légitime sur ces choses-là et chercher à les justifier bien plus que les personnes qui vont finalement être les détractrices de nos...
Sur la question aussi de dire qui a le droit finalement de créer, d'inventer, il y a aussi la même question de qui a le droit de dire que c'est beau ou que c'est moche. Et en fait, j'ai vu souvent passer sur ces questions-là de l'écriture inclusive, mais comme de la poésie, hein, ça peut être aussi un style qu'on réfute totalement. Dire c'est moche, ça, c'est quoi comme argument, ça, enfin, comment vous le recevez, comment on le perçoit, parce que finalement, c'est un moche situé aussi.
Moi, quand j'entends dire que c'est moche, j'entends... je travaille sur la question de la beauté et de la laideur, en fait, parce que voilà, je suis très intéressée par les questions de body positive, mettre des guillemets partout, des questions de grossophobie, etc. Et la beauté, la laideur, ça revient souvent, en fait. Moi, quand j'entends c'est moche, j'entends c'est illégitime. J'entends ça doit disparaître, j'entends ça doit se cacher. C'est ça que j'entends quand j'entends c'est moche, parce que c'est moche, bon bah ok, qu'est-ce que ça fait, même si c'était moche, il y a plein de mots qui sont moches, hein. Calambreden, c'est pas très beau, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont, enfin, pourquoi le fait que ce soit moche c'est un problème, en fait, pourquoi ça doit définir l'existence ou la légitimité ou non d'une pratique ou d'une proposition artistique, etc. Moi, c'est ça que j'entends. J'entends pas c'est moche esthétiquement, j'entends ça n'a pas à exister, ça n'a pas à apparaître en public, en fait.
Ouais, bah c'est carrément, en fait, un rappel à l'ordre, presque, tu vois, sur un système de valeurs qui est complètement arbitraire, en fait.
Je voulais parler de... C'est pour ça que je suis restée sur cette image-là, où on voit beaucoup de couleurs saturées. Et donc, en fait, un autre des points communs aussi entre la poésie Et l'écriture inclusive, c'est aussi de se retrouver sur le digital, sur les réseaux sociaux. Bon, alors, je ne sais pas si c'est tout à fait totalement vrai pour la poésie absolument, mais en tout cas, il y a eu un gros mouvement de poésie. Je pense à des personnes ultra connues, ultra médiatisées, du style Rupicor, etc. Pareil, l'écriture inclusive, c'est aussi un truc qui existe, alors non seulement en collectif, en intérieur, en école, etc., mais aussi... aussi par des logiciels, en fait, pour les créer, c'est, je sais pas, faut les, bon, je sais pas techniquement comment ça se passe, mais je sais pas, faut les intégrer sur InDesign, enfin, voilà. Et donc, ce point commun, c'était ce côté très digital, et donc cette esthétique-là, elle est complètement assumée aussi sur vos productions, ouais. Donc je sais pas ce que t'aurais à dire dessus, mais ouais, je trouve c'est intéressant, en tout cas, de voir.
Bah, en fait, par exemple, sur les logiciels, ça dépend, enfin, sur l'ordinateur, par exemple, il y a déjà... un raccourci pour faire le point médian, l'astérisque, elle est déjà sur le clavier. Enfin, toutes ces pratiques-là existent sans problème. Après, là, oui, on fait du coup appel. Enfin, là, par exemple, c'est Marouchka Payen qui a dessiné spécifiquement ce caractère-là qu'elle a joué à Fronde. Où là, oui, en fait, il y a quand même une formation technique. On est sur du logiciel de dessin de caractère typographique. C'est autre chose. Et petit à petit, ça commence à devenir de plus en plus accessible aussi sur les ordinateurs, etc. Enfin, pour tout le monde, ou pour les graphistes, etc. Mais c'est encore... en fait, il y a beaucoup de boulot aussi là-dedans. Enfin, il y a un impensé total. Mais voilà, mais on bosse dessus. Et l'esthétique aussi, en fait, très web, ça vient aussi... Enfin, c'est aussi toute la culture du savoir libre et de l'open source. Qu'on réinjecte et dont on reprend les codes, on se les réapproprie et on les... Il y a aussi quelque chose de très flamboyant à avoir ce genre de couleurs, quoi.
Mmh. Je voulais en parler plus tard, mais cela dit, ça se lit bien maintenant. Justement, vous avez fait le choix, et donc de manière justement très collective, mais en fait, il y a surtout cette question-là. Contrairement à beaucoup de milieux de l'art, quand même, on est vachement à cheval sur les droits d'auteur, d'autorice, de propriété intellectuelle, etc. Pourquoi faire ce choix-là d'open source? Et il y a toutes sortes de choses aussi, les licences libres. Je sais qu'il y a un site qui s'appelle Velvetin, où on peut télécharger une typographie, typiquement. Et par contre, il faut faire un don à une asso. Il y a quand même tout un truc qui est complètement repensé sur la question des droits.
Bah après, nous, je pense que ça s'est mis en place de manière comme ça, très très naturelle, en fait. Mais c'est un truc qu'on veut vraiment développer. Là, on est en train de créer une banque d'images qu'on souhaiterait inclusive, par exemple. Enfin, surtout, là, c'est plus pour les designers d'espace, normalement, mais ces banques d'images qui permettent de faire des maquettes, etc. On aimerait aussi se lancer dans ce genre de choses. Mais c'est vrai que on ne s'est même pas posé la question. Enfin, ça paraît tellement évident, et je pense que c'est... Enfin, c'est des choses qui sont en évolution aujourd'hui et qui paraissent plus naturelles peut-être maintenant qu'avant, je sais pas.
Ouais, y a carrément un truc aussi de l'ordre de l'accessibilité, en fait, que juste en fait ce soit disponible. Et par exemple, dans la démarche de Velvetin aussi, les fichiers sources des typographies sont accessibles et on peut aussi venir retravailler et augmenter les choses. Et en fait, finalement, il y a des espèces de circuits. De collectifs qui se mettent en place des fois. Et c'est aussi intéressant pour ça de, en fait on travaille pas seul.
Ouais. Et en quoi ça fait, à votre avis, ce mode de travail finalement et de recherche fait émerger de nouvelles esthétiques? Est-ce que c'est différent de travailler seul ou dans des rapports qui sont beaucoup plus verticaux? Est-ce que, à votre avis, ça a un impact justement sur l'esthétique, sur toutes ces questions d'open source d'ailleurs, mais ça peut être sur plein d'autres domaines?
C'est dur comme question. De manière très simple, je pense que le fait de travailler en collective ou de travailler seul, les deux amènent des choses complètement différentes et du coup aboutissent à des créations autres.
Ouais, c'est vrai qu'elle est un peu compliquée, cette question.
Non, mais oui, mais je sais pas si t'as quelque chose à dire qui est mise là-dessus, mais c'est vrai que...
Moi, comme j'écris souvent, l'écriture, c'est quand même quelque chose qui est... c'est assez solitaire. Donc, il faut vraiment aller contre ton... Enfin, ça dépend pour qui, mais il faut aller quand même contre... Il y a un côté contre-nature, mais pas avec une connotation négative, mais un peu contre-intuitive, de se dire, on va écrire en groupe, etc. Après, je pense que comme beaucoup de pratiques, vaut mieux être, enfin, le collectif, ça fait nourrir des réflexions, ça fait nourrir des débats, mais comme beaucoup de, je pense comme dans beaucoup de domaines, en fait, au final. Mais c'est vrai que... Je voulais juste revenir sur la poésie qui est en ligne. Je trouvais que c'était intéressant, parce que ça dit aussi beaucoup de choses, en fait, et je pense que ça... Ça renvoie un peu avec le côté logiciel libre. Je pense qu'il y a un côté de, bah, jusqu'à très récemment, on considérait comme Internet comme un peu un espace un peu des marges, ce qui est un peu paradoxal parce que beaucoup de gens vont sur Internet. Mais en tout cas, c'est un lieu de. J'ai l'impression, en tout cas, moi personnellement, c'est un lieu de création artistique qui est quand même associé aux marges, en fait, finalement. Ah, peut-être un sentiment de. Pas qu'un sentiment d'ailleurs, mais une impression vraie, fondée. Peut-être parfois pas fondée, mais de rejet finalement des institutions classiques. Et donc du coup, bah, on va un peu se tourner vers Internet, les réseaux sociaux, etc. Et du coup, c'est aussi peut-être là qu'il y a des pratiques de l'Internet, donc typiquement le logiciel libre, qui apparaissent, quoi. Après, c'est vrai que la poésie, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la poésie en ligne, mais bon, c'est, et même moi d'ailleurs, hein, je peux le dire, il y a quand même aussi un désir... c'est difficile de se battre contre le désir de légitimation. Je pense que pour des écrivains, le désir de légitimation, il passe par le fait d'écrire, enfin de publier un livre matériel et concret. Mais... Enfin, voilà, j'avais envie d'un peu d'apporter cette nuance parce que c'est vrai qu'il y a une perception quand même de la question de la poésie et tout, et la poésie en ligne, etc. Et malheureusement, en fait, je pense qu'on se défait quand même pas de nos désirs un peu de validation via l'objet culturel qu'est le livre imprimé, quoi.
Toi, d'ailleurs, je sais pas si tu veux expliquer un petit peu plus ton parcours de poétesse, mais je crois que tu as commencé par un blog, donc aussi par du digital, finalement. Et tu en es arrivée aussi à la publication de ton recueil. Donc, comment ça se passe, effectivement? Comment tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a motivée à commencer la poésie? Et pourquoi sur un blog?
Alors, le blog, c'est très cliché, mais c'est ma mère qui m'a dit « Tu parles beaucoup trop, écris sur Internet. » voilà. Donc, elle me disait bah, « C'est l'occasion. » Et aussi, je pense qu'elle avait aussi cette conscience, peut-être pas formulée comme ça, mais cette conscience de dire « Mais en fait, regarde ça, t'as un espace qui t'est accessible et t'as un espace où tu vas pouvoir aussi peut-être t'épanouir. » Et parce qu'il y a vraiment une impression de les domaines artistiques, c'est quelque chose qui n'est pas forcément un espace où on se voit, surtout je pense quand t'es proche ou t'as, il n'y a pas de quelqu'un de proche qui est dans un domaine, enfin dans le milieu artistique, on va dire. Et donc c'est vrai qu'il y a ce côté passe par Internet parce que voilà, au moins ça sort, en fait. Mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que on navigue un peu entre le livre imprimé, Internet, et puis il y a un côté aussi à Internet, enfin, je sais pas si c'est vraiment la conversation qu'on doit avoir, mais comment ? Les espaces marginalisés, il y a des choses très belles qui peuvent se passer, surtout sur Internet, et bon, là, on est dans une démarche de libre accessibilité, je sais pas comment dire, mais donc c'est particulier. Mais il y a aussi, je pense, il y a une vulnérabilité qui n'est pas trop mentionnée et qui existe aussi sur Internet. Vulnérabilité de ce qu'on écrit, comment on s'expose, sans parler même de cyberharcèlement, etc. Je parle même des idées, en fait. Après, vous allez peut-être me dire que je suis très territoriale sur mes idées, mais il y a un côté aussi, on reste sur ces... On va sur ces plateformes, c'est bien, on crée beaucoup sur ces plateformes, et en même temps, c'est aussi difficile de se dire, oui, mais en fait, nous, on n'est pas juste voué à rester sur ces plateformes-là, en fait, finalement, parce que c'est aussi des plateformes où il n'y a pas forcément de pouvoir, et voilà, c'est un peu flou, ce que je dis.
Ouais. Non, mais je comprends.
C'est aussi qu'à un moment donné, les choses t'appartiennent plus aussi sur les plateformes, puis faut aussi se nourrir à un moment donné, on va pas se mentir. Ça rapporte rien, hein. Mais sinon, oui, enfin, après, ça crée des réseaux de solidarité aussi qui sont assez géniaux, quoi.
Oui, c'est ça, c'est un peu à double tranchant à la fois. Moi, je le vois aussi pour tout ce qui est activisme féministe, etc. Il y a de gros sujets aussi autour de ça et de dire en fait, tous ces contenus là que je vous lis gratuitement tout le temps, des marques ou des structures vont se les réapproprier Et d'un côté, c'est tant mieux. Et d'un côté, c'est genre, mais... Enfin, je pourrais le monétiser aussi. Je pourrais en faire mon travail. Enfin, c'est toujours cette question à double tranchant de je veux le répandre. Et en même temps, j'aimerais bien que ça soit valorisé, quoi.
Et je pense que c'est le fait aussi de... Enfin, là, c'est vraiment spécifique aux réseaux sociaux. Je sais pas si pour les blogs, c'est encore autre chose, mais je pense que c'est spécifique aux réseaux sociaux. Comme on est aussi seul, parce que c'est ça aussi que j'ai rencontré, hein, que ce soit des poétesses, mais même des activistes, puisque tu parles des activistes. Je veux dire, dans des structures peut-être un peu plus grosses, qui ont des problèmes, qu'on connaît, voilà, des associations, des syndicats, etc. Je pense que cette charge aussi, elle est partagée. Alors que les réseaux sociaux, tout est un peu flou. Enfin, tout est un peu flou. Ce que je veux dire, c'est que Et puis, surtout dans le militantisme et même dans la création, tu veux donner. En fait, déjà, tu donnes sur des... Déjà, sans parler même d'autres personnes, tu donnes sur des plateformes qui sont quand même des plateformes privées. Tu donnes ton contenu, quand même. Ouais, c'est compliqué, je pense. Je pense que ça nécessiterait même une autre conférence.
Oui.
Mais ouais.
Je voulais revenir sur les arguments un peu qui sont sortis sur les questions de l'écriture inclusive, et notamment ce qu'on disait au début, qui est l'écriture inclusive. Est-ce bien utile quand on voit que il y a des féminicides, quand on voit qu'il y a d'autres urgences climatiques, etc. Il y a un peu cette idée de dire bon, c'est inutile. Donc je voulais savoir votre point de vue par rapport à ça, et je voulais d'ailleurs souligner le travail avec le bingo, donc qui est non seulement d'ailleurs sur la question de l'écriture non binaire, mais aussi la question de décoloniser l'art, les savoirs, les langages aussi. Qu'est-ce que c'est que cette initiative?
Là, pour le coup, c'est sur les écoles d'art spécifiquement. Et en fait, c'est de bingo. Donc, c'est à partir d'un groupe de travail de Teaching to Transgress Toolbox, qui est un programme européen entre trois écoles. Celle de Besançon, enfin école d'art, celle de Besançon, l'ERG et l'école d'art de Göteborg. Et donc là, c'est un groupe de travail qui a travaillé en fait sur le bingo, en fait, qui est déjà un outil assez militant, enfin qu'on connaît assez bien. En reprenant les arguments anti-écriture inclusive, et un autre aussi en reprenant une bonne partie des phrases racistes qu'on entend en école d'art régulièrement. Voilà. Et donc aussi on propose du coup des réponses en fait à ça, avec toujours deux tons, une un peu plus du tac au tac et une autre un peu plus pédagogique qui essaye de déconstruire et amener la personne sur des pistes de réflexion. Voilà.
Moi, j'aimerais juste répondre. Et alors, comment dire? De manière très non politiquement correcte, oui, c'est sûr qu'une femme... Enfin, que les féminicides, c'est important... Enfin, en tant qu'artiste, je peux quand même dire que les féminicides, c'est une femme qui meurt, c'est plus important que moi qui est en train d'écrire. Ça me dérange pas. C'est pas... OK. Après, la première chose que j'aimerais savoir, c'est qui parle. Parce que c'est vrai dans l'absolu, mais souvent, je trouve que c'est quand même très hypocrite. Enfin, en tout cas, moi, non, je vais formuler ça différemment. La manière, les fois où j'ai entendu ça, c'était des gens qui... c'était la première fois que j'entendais parler de féminicide. Hein. Souvent, déjà, ils disent pas le mot féminicide, mais bon. Les violences faites aux femmes, etc. Et j'ai envie de dire, de toute façon, on peut faire plein de choses, en fait. On est beaucoup, ça qui est bien. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées sur les questions de justice sociale. Et donc, on peut chacun avoir sa thématique et on peut chacun utiliser une porte d'entrée. Finalement, je trouve ça très hypocrite. Enfin, en tout cas, les fois où ça m'est présenté, c'est jamais de bonne foi. Parce que de toute façon, si c'était de bonne foi, on me dirait qu'est-ce que je peux faire contre les violences faites aux femmes. On me dirait pas ce que tu fais, c'est nul, parce que cet autre truc, c'est plus important, alors que cet autre truc, franchement, j'en ai rien à fiche, de base. Donc, voilà. Après, je pense que c'est pas... On n'est pas... Enfin... C'est pas une question qui doit nous prendre en défaut, en fait, je pense. Vraiment pas, en fait. Même en tant qu'artiste, en tant que poétesse, je pense qu'il y a des choses... Il y a des moments où il y a des choses qui sont prioritaires pour moi. Et c'est OK. c'est pas censé. Voilà, là, il y a une entreprise de délégitimation, en fait, qu'il faut dévoiler et dénoncer, en fait. Parce que je pense que ces gens, ils s'en fichent aussi des violences faites aux femmes, quoi.
Et pour rebondir, moi, je pense que, enfin, à partir du moment où la personne dit que c'est moins important qu'eux, c'est qu'en fait, bah, si, ça, il y a de l'importance parce que justement, ça dérange ces personnes-là et voilà.
Sur la question aussi de l'inutilité, enfin, même si je dis ça avec des guillemets et en rigolant, et la question de la poésie. Enfin, moi, je suis une grande fan perso de la poésie et je voulais citer Audre Lorde, que j'ai justement ici, qui en parle, et dans un texte qui est assez connu, où elle dit que la poésie n'est pas un luxe, en fait, justement. Donc je vais vous en lire juste un petit passage. Elle dit « Je parle ici de la poésie en tant que sublimation révélatrice de l'expérience, et non de ce jeu de mots stériles au nom duquel, trop souvent, les pères blancs ont galvaudé le mot poésie, pour dissimuler leur aspiration manifeste vers une imagination sans profondeur. Pour les femmes, cependant, la poésie n'est pas un luxe. C'est une nécessité vitale. Elle génère la qualité de la lumière qui éclaire nos espoirs, ainsi que nos rêves de survie et de changement. Espoir et rêve d'abord mis en mots, puis en idées, et enfin transformés en actions plus tangibles. La poésie, le chemin qui nous aide à formuler ce qui est sans nom, le rendant ainsi envisageable. » Bah, c'est un truc que je trouve très très beau et très vrai, et qu'on prend pas assez en considération, justement, cette question d'utilité et de l'inutilité, qui je trouve est un argument assez peu valide. Donc finalement, je voulais rester sur. Sauf si tu voulais parler.
Ouais, non, oui. Mais en fait, c'est que souvent on oppose l'utilité et l'inutilité, à, comme Audre Lorde dit, à la nécessité, en fait. Juste, on a besoin et c'est nécessaire pour nous de se représenter et de nommer aussi nos existences. Et voilà, enfin, juste à partir de là, tout l'utilité ou l'inutilité devient caduque, quoi.
Et je pense que c'est important de se rappeler. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire et j'adore ce texte d'Audre Lorde, qui m'a permis aussi d'être, d'avancer dans mon travail de légitimation. Mais après, cette année, je me suis rendu compte que parfois, c'est très cliché ce que je vais dire parce que tout le monde le dit, mais il y a eu ce truc avec les biens non essentiels. Tout ce qui n'était pas du capital, c'était pas essentiel, en gros. Donc produire de la joie, c'est pas essentiel. Ce qui est un peu hypocrite parce qu'en même temps, il y avait aussi, on était tous sur Netflix, c'est de la culture, hein, c'est censé pas être essentiel, mais voilà. Donc. Et en même temps, il y a deux choses. Il y a la première chose où je suis tout à fait d'accord. Pour Audre Lorde, la poésie, c'est un outil pour envisager l'émancipation, envisager d'autres mondes, envisager un espace meilleur. Et c'est très difficile, je pense, d'avoir ces espaces-là. Donc, il faut réinvestir la poésie. Et en même temps, j'ai envie de dire, tout n'est pas obligé d'être utile. Et utile, la suite de la phrase, elle n'est pas dite, c'est-à-dire utile pour le capital. Oui. Tout n'est pas obligé d'être utile. Je veux dire, notre vie, ce n'est pas juste d'être utile, d'être productif. C'est pas ça, notre vie. Je pense qu'en tout cas, c'est mon avis, mais je pense que tout n'est pas obligé de... Tout n'est pas obligé de servir. Ça peut juste être. Et être légitime comme ça.
Alors effectivement, utile, c'était bien dans le sens, mercantile, capitaliste, utile dans ce sens-là, parce qu'évidemment que la poésie, c'est utile de bien d'autres manières. Je voulais faire maintenant parler de toi encore. Alors, j'ai lu ton recueil, qui est très beau, et je voulais faire une suite aussi avec toi, ton travail par rapport à Audre Lorde, et à cette question de ne plus réclamer, créer. Je ne sais pas si tu voudrais lire un de tes poèmes ou si ça te gêne ou si tu préfères que je en lise un passage.
Tu peux lire. C'était pas prévu.
Excuse-moi. Petite surprise. Alors, donc c'est un poème. Je peux le lire en entier, j'ai le droit.
Oui, vas-y.
C'est un poème qui s'appelle Donner son temps, plus jamais. Impatiente, elle sort de l'ascenseur, bloquée, maintenue au sous-sol, incapable d'attendre, de contempler l'impasse, une minute de plus, lui donner son temps, plus jamais. Plus jamais, acculé par la faim qui joue la funambule sur le mur qui la retient prisonnière, elle s'oblige à la déraison. Dans son dos, l'histoire hurle. Les échos des marches la poussent à courir, dessiner ses propres escaliers, tracer une courte échelle pour que d'autres emboîtent son pas. Sa voix se lève, pose des bombes sur le plafond de verre. Les mots rebondissent, brisent, un silence qui étrangle. Dans ses poings serrés, le désir de justice et ses doigts ensanglantés effleurent le ciel libéré. Ne plus se taire, chuchoter, ne plus chuchoter, demander, ne plus demander, réclamer, ne plus réclamer, créer. Déjà, bravo.
Merci.
Et alors, il y a quelques semaines, j'étais écoutée parler à Lyon à l'occasion d'une conférence qui s'appelle European Lab. Et créer, ça m'a fait penser au thème de cette conférence-là qui était autour de ce mot afropéen, donc qui a un néologisme aussi. Donc créer aussi et créer des mots, je voulais, si tu es d'accord, me parler de ce mot afropéen et aussi de l'importance de créer des mots, des espaces et de créer des... de créer des espaces pour mettre en avant des gens qui ne sont pas que des Audre Lorde, que des Maya Angelou, que des Martin Luther King, je sais que vous citez ça, et dire mais on a besoin d'exemples de gens de notre vivant, et surtout géographiquement beaucoup plus proches de nous, etc. Tu avais d'ailleurs parlé d'une poétesse en Allemagne, il me semble.
Oui, Mai Haim, qui était très inspirée par Audre Lorde, passage pour Audre Lorde. Poétesse afro-germanique des années 70-80. Alors, afropéen, moi, c'est pas moi qui l'écris. Hein. De toute façon, c'est un terme qui existe depuis assez longtemps, qui a été notamment mis en lumière par l'écrivaine franco-camerounaise Léonore Amiano. Et j'aime bien l'idée de créer, parce que justement... Et j'aime bien ce que tu as dit, créer de l'espace. Et justement, c'est ça que j'aime, en fait, avec la création artistique, le fait de créer des mots, la poésie. C'est justement... C'est vraiment créer de l'espace parce qu'on se sent à l'étroit. Voilà. C'est une sensation de me sentir à l'étroit, ce qui est très récurrent dans mon expérience de vie, de se sentir à l'étroit. Et c'est vrai que la création, enfin, en tout cas, la poésie, ça permet ça. Pour parler en deux phrases de mon parcours, c'est vrai que je suis très... passionné, c'est un terme trop positif pour décrire ça, mais intéressé par les questions antiracistes et féministes et la question du genre, des orientations sexuelles, de la grossophobie. Et j'ai l'impression que souvent on est dans la réaction. D'ailleurs, c'est la réalisatrice Amandine Gay qui m'a fait penser à ça. On est souvent dans la réaction. La réaction des polémiques. On est souvent dans des postures défensives. Parce qu'on a l'impression qu'on est attaqué, mais du coup, en fait, ces positions défensives, comme dirait Toni Morrison, elles nous distraient. Elle dit le racisme, ça a une fonction de distraction de notre travail, entre guillemets. Et en fait, à travers mes écrits, en tout cas ce que j'essaye de faire, c'est justement de sortir de cette temporairement, parce que je vis quand même dans la société, mais temporairement de sortir en fait de cette position de défense, de repli constante, et de dire non mais moi aussi je vais proposer en fait autre chose. J'ai le droit de proposer autre chose. J'ai le droit de dire mais en fait ça va pas se passer comme ça. Moi je dis que c'est comme ça que je suis. J'ai le droit de dessiner ce que je suis. J'ai le droit de dessiner le monde. J'ai le droit de dessiner l'avenir. Et pour certains, c'est pas très... c'est pas acceptable. Et pas que moi, là je parle de moi, mais je pense que c'est une position qu'ont eu beaucoup de personnes qui ont été à la fois artistes et activistes, c'est de dire ça, en fait, de dire, maintenant, en fait, on va être constructeur, nous aussi, on va être co-constructeur de cette société, co-constructrice de cette société, en fait. Et c'est ça que j'ai un peu voulu dire dans le texte. En fait, quand j'ai écrit ce texte, je me souviens très bien, j'étais très énervée. Très énervée parce que y avait une phrase que j'entendais souvent, c'est « Oui, c'est perfectible. La situation, oui, c'est vrai que c'est pas la mort, mais en gros, c'est la question du racisme, la question du féminisme. Oui, il y a encore des progrès à faire. » Et moi, je me posais la question, mais combien de temps encore, comme dirait Martin Luther King aussi, combien de temps il faut que j'attende, est-ce qu'il faut que j'attende, enfin, pour que ça change en fait. Et c'est une position qui est difficile, je pense. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces espaces-là, de prendre, ou de les faire naître, ces espaces, en fait, où on peut dire, mais en fait, nos mondes, ils ressemblent... Nous, on veut que nos mondes ressemblent à ça. Et on n'est pas... en tout cas, dans cet élan immédiat, on n'est pas discuté. Après, on sera discuté, hein, c'est sûr, hein, à l'extérieur, il y aura des gens qui diront, c'est moche, c'est pas ceci, c'est pas cela. Il y aura toujours des gens comme ça. Mais juste cette posture-là, elle est assez inhabituelle. Enfin, elle est assez inhabituelle, c'est même pas inhabituel, c'est... Elle est assez extraordinaire.
Justement, créer des espaces, c'est aussi un peu ce dans quoi vous travaillez aussi. Et comment, justement, ça a été reçu, vous, déjà en école et entre vous?
Alors, en école, on a eu de tout. On a essayé de garder que le positif, mais on n'a pas eu du tout que du positif. Et après, entre nous, nous, ça a été un peu spécifique quand même, parce qu'on a créé vraiment le Club Med. Enfin, on a vraiment commencé à travailler pendant le premier confinement. Et du coup, on a créé des espaces plus virtuels que physiques. Et donc, ces espaces virtuels, c'était complètement nouveau à ce moment-là aussi. Donc, ça rentrait dans un mécanisme comme la virtualité. Pendant le premier confinement, qui fait qu'on est, je pense que, enfin, moi, j'ai pas l'impression d'avoir encore assez le recul pour pouvoir faire la part des deux choses qui sont arrivées de manière simultanée. Et tu veux dire un truc, Enzo?
Ouais, enfin, c'est aussi, enfin, c'est vraiment s'approprier, enfin, faire sa place en fait, créer sa place là où on veut pas nous la donner. Et ouais, je sais pas trop ce que je pourrais ajouter, mais oui, s'approprier ces représentations et donner aussi parfois la possibilité à d'autres personnes de le faire avec soi. Et oui, il y a clairement des résistances. Ça, on va enfoncer des portes ouvertes, quoi. Mais ouais, non, ça a été ça. Ouais, on a notre bande de mascus qui nous écrit des mails.
Dans l'école.
Ouais. Et puis après, oui, à côté, par contre, des fois, c'est super bien reçu. Et il y a des gens qui nous... Et ça fait plaisir, tu vois. Il y a des personnes qui nous disent, c'est trop bien, etc. On avait besoin de ça et tout. Je m'en sers tout le temps, etc. Enfin, voilà.
Ce que je trouve intéressant aussi, c'est cette question de créer des espaces, non pas pour imposer des idées, mais pour expérimenter. Donc, c'est-à-dire, on les crée, mais on ne sait pas forcément où ça va nous mener. Mais en tout cas, on permet d'y réfléchir. Je trouve ça intéressant. Et ça me fait penser à ce que tu disais, toujours dans cette conférence d'European Lab, où tu parlais de l'importance aussi de comment on crée des exemples. Je me souviens que c'était comment on crée des Beyoncé, je crois, ou je ne sais plus. Et tu disais, un truc qui était vraiment très juste, c'est on faut avoir le droit à l'échec aussi. Enfin, le droit de... Enfin, pour qu'il y ait une Beyoncé, il faut qu'il y en ait plein qui n'aient pas réussi aussi. Enfin, toujours dans cette idée d'expérimentation. Donc, je veux savoir pourquoi c'était important pour vous d'expérimenter. Est-ce que ça vous fait peur? Enfin, on pourrait avoir une peur de l'échec aussi sur ces questions.
Nous, après, l'expérimentation, c'est une des manières qu'on a. Enfin, on a plusieurs formes de présenter le Club Med, mais c'est une des manières qu'on a de présenter le langage inclusif à des personnes lors d'ateliers, notamment par la création d'un fanzine. Et du coup, ça, c'est vraiment une partie de notre travail qui nous intéresse beaucoup. Ça, même dans notre conférence et dans nos podcasts, on est pas mal dans l'expérimentation et la création, et justement d'essayer de donner un côté fun, parce que le langage inclusif, ça peut être chouette, c'est quand même des histoires de grammaire, donc c'est pas un truc très fun non plus de base, donc faut un peu l'amener à autre chose si on veut réussir à s'amuser, quoi, sinon c'est pas très sexy.
Mais vous arrivez, je trouve, à le rendre sexy. Je voyais, je suis beaucoup les travaux de Roxane Maillet, notamment, qui est graphiste. Et qui, alors, je sais pas, j'ai vu ça sur Instagram il y a quelques jours, mais je voyais plein de façons de dessiner des étoiles, donc les étoiles, l'astérisque, donc qui est une forme de recommandation d'écriture par Sam Boursier, il me semble. Donc c'est fun. Enfin, et puis parfois je vois, enfin, sur vos réseaux, vous avez l'air de bien vous amuser, comme là sur la photo.
Ouais, sur l'astérisque, en fait, Sam Boursier, c'est dans l'introduction de son livre Homo Incorporated. Le triangle et la licorne qui pète. Enfin, j'ai sûrement fait une erreur dans le titre, mais bon, grosso modo, c'est ça. Et en fait, il y a une petite note sur le langage au début. Et en fait, l'image qu'il donne, donc, enfin, il dit quelque chose dans le genre. Cette étoile, elle sabre le genre. Et elle devrait aussi, si elle pouvait être comme une paillette colorée tout le long du texte, qui viendrait s'attiller, etc., etc. Enfin, je trouve ça hyper beau parce qu'il y a vraiment un truc aussi qui ramène autant avec la paillette, la couleur, à quelque chose de l'ordre de la fête aussi, qui est hyper important. Et en même temps, qui sabre aussi avec quelque chose de très politique et radical comme pratique, qui est hyper, hyper intéressante. Et ouais.
Il y a aussi la question de créer un espace, non seulement pour tester des choses, mais aussi pour en créer un lieu bienveillant et aussi festif, joyeux, et ce qu'on appelle un peu safe place, où c'est aussi ça, peut-être, construire de nouveaux imaginaires inclusifs. C'est des choses qu'on arrive à avoir uniquement quand on arrive à accéder à ces espaces-là, qui sont quand même plutôt rares. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous voyez ça aussi comme ça.
Dernièrement, ils ont été très rares, oui.
Pourquoi ?
À cause du Covid.
Ah oui, pardon. Oui, évidemment.
Je pense que c'est super intéressant ce que vous dites justement sur la question de la joie. Parce que je pense qu'il y a aussi... comment dire ? Parce que c'est des questions qui nous prennent au cœur ou qui évoquent des situations... parfois un peu difficile. Il y a aussi je pense qu'il y a aussi, c'est montré aussi de cette manière, c'est les féministes hystériques, les antiracistes toujours vénères pour un rien, etc. Donc un côté très pareil en fait, rabat-joie, etc. Ce que je vois, cette citation, j'adore la paillette et tout, ça me fait vraiment penser à la joie, à la célébration. Au-delà même du côté sexy, c'est vraiment ça, la joie. L'expérience de la joie, des joies collectives à penser d'autres mondes, ça fait très discours de Miss France, mais penser des mondes meilleurs, en fait. Et je crois que c'est quelque chose qui est très... pas oublié, mais justement, qui n'est pas montré, en fait. Il faudrait quand même pas rendre les activistes et poétesses bizarres désirables, quand même. Donc c'est quelque chose qui n'est pas montré, justement cette ouverture en fait sur ces possibilités qui sont très en tout cas à mon sens très libératrices au final, en fait, très on peut s'ébattre.
Oui, puis aussi je pense qu'il y a, enfin, sur le même ce que tu dis, il y a aussi l'idée que dès qu'on parle de quelque chose un peu de militantiste, en fait c'est quelque chose d'hyper sérieux et qui est trop qui parle de choses trop lourdes, pour s'amuser, mais en fait, non. Enfin, sinon, on s'en sort pas en plus.
C'est lourd, tu vois, quand tu parles de domination, c'est hyper lourd. T'as... Mais c'est vrai, t'as raison aussi, ouais.
Enfin, il y a les deux, quoi. Ouais. Heureusement.
Ouais. Alors, avant de faire un peu la question finale, qui serait un peu le récap de tout ce qu'on s'est dit, je voulais revenir vers toi encore, Kiemis, pour aussi plus parler sur ton processus d'écriture, de choisir un mot plutôt que l'autre. Comment tu fais ? Quel est ton souci de rendre beau ? Parce qu'il y a quand même plusieurs intentions dans la poésie. Il y a quand même à la fois une recherche esthétique, à la fois faire passer des idées, conjuguer les deux. Comment tu t'y prends ? Est-ce que d'abord tu veux écrire quelque chose ? Est-ce que d'abord tu as des mots qui te viennent tout de suite ? Comment tu veux les faire sonner aussi ?
C'est très... Là, du coup, je vais être un peu la personne ésotérique de la pièce. Je suis vraiment désolée. Mais en fait, c'est... Parfois, c'est juste, je les entends, j'entends les mots chanter. Donc voilà, c'est très bizarre, mais ça fait très Jeanne d'Arc. Mais j'entends, voilà, il y a un côté... déjà, la poésie, que j'ai aussi redécouverte, c'est quelque chose qui est très vocal. Donc, c'est quelque chose qui est très oral. Il y a une espèce de musicalité comme ça. C'est un peu inexplicable, parce que je pense que certains vont trouver des choses très belles et d'autres non. Mais voilà, peut-être que, et ça, bizarrement, c'est quelque chose qui me vient de la poésie très classique, de quand j'ai appris mon premier poème de Baudelaire. Je le chantais, en fait, parce que bon, je déteste le par cœur. Et la seule manière pour moi d'apprendre une poésie par cœur, c'était de la chanter. Donc je pense que j'ai peut-être gardé un petit peu ça. Et donc du coup, quand... je sais pas. Quand ça chante, c'est bon. c'est très ça fait un peu mystique, mais ouais, c'est ça le processus de création, je crois. C'est, désolé, ça répond pas vraiment à ta question. Oh, en si, plus, si, le pire, c'est que j'ai un discours sur l'écriture comme quelque chose de musculaire. C'est un travail et c'est important pour un peu. Déconstruire un peu certaines idées de l'artiste torturé que j'aime pas trop, mais parfois c'est juste j'entends les mots chanter.
Ouais, il y a quand même un vrai travail de structure aussi. Enfin, là, quand tu parlais, ça m'a rappelé la citation que j'ai oublié de décrire de Monique Wittig, qui en fait n'utilise pas du tout de ponctuation, ou très peu. Ou je pense aussi au livre de Wendy Delorme, Viendra le temps du feu, que j'avais interviewé et qui m'expliquait qu'en fait. Elle avait beaucoup pensé en alexandrin. Enfin, il y avait cette question du rythme qui vient... En fait, du coup, la structure et tout ce qui est un peu technique, finalement, vient nourrir et vient créer aussi l'esthétique. Enfin, les deux sont très interdépendants, quand même.
Ouais, je suis d'accord, mais en même temps... bon, alors, du coup, j'ai pas du tout la même expérience parce que je pense que moi, j'étais très arrêtée aussi sur la structure, la technique au tout début de mon écriture. Et en fait, j'ai rencontré des éditrices qui m'ont dit « Non, mais bon, OK. » Mais en fait, lâche-toi, et bats-toi en liberté dans ton champ, dans ta tête. Voilà, j'imaginais un champ où je courais, et c'était ça ma pratique artistique. Et donc du coup, c'est vrai que je pense que je suis d'accord avec le fait qu'il y a parfois il y a des petits tips à avoir. Je les prends plus comme des tips, tu vois, on parlait de l'artisanat tout à l'heure, bah, c'est un peu ça. Mais parfois c'est aussi juste...
Mais c'est des tips perso. Enfin, c'est très personnel. Enfin, y a des personnes qui aussi... Il y a aussi une question de construction sociale et de, aussi que t'es allé en école, t'es autodidacte, t'as pas forcément les mêmes codes et les mêmes références. Donc,
et les influences culturelles aussi, ouais, ça joue énormément. Parce que moi, j'étais dans une famille qui aime énormément la musique. Donc je pense que ça m'a aussi... c'est peut-être des choses que parfois tu essentialises, mais bon, là, j'entends les mots chanter. Et en fait, c'est juste que, bah non, c'est parce que tout le monde chantait dans ma. Enfin, tu vois, la musique, c'est tellement important dans ma famille que c'est comme ça que c'est. C'est là que je voyais la poésie aussi, c'est là où j'avais accès à la poésie, je pense.
Alors, je vais poser une dernière question un peu récap, un peu vague, donc à vous de dire ce qui vous vient à l'esprit. C'est finalement, donc le titre, c'était ça, c'était construire de nouveaux imaginaires inclusifs. On a beaucoup parlé d'écriture. Et de mots et de poésie, mais comment donc les mots, comment à votre avis, quels sont les canaux aussi les plus puissants pour justement aller modifier ces imaginaires et comment par les mots on arrive à transformer aussi largement ça, parce que l'imaginaire c'est très vaste, c'est une question difficile.
Moi ça me fait référence à un auteur. J'ai tellement l'habitude de parler d'autrice que voilà. Un auteur qui avait décidé, qui a écrit un livre qui s'appelle Décoloniser l'esprit, et j'ai peur de buter sur le nom, donc je préfère pas le dire, mais Ngui Wa Thiong'o, je crois que c'est ça son nom. Et en fait, il expliquait que. C'était un poète, un romancier aussi, et en fait, il a décidé d'arrêter d'écrire en anglais, parce qu'il écrivait en anglais. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que l'anglais, donc c'était un Africain continental, donc qui vivait en Afrique, et il s'est rendu compte qu'en fait, avec les mots, donc avec la langue, l'anglais était trop restrictif par rapport à sa réalité en fait, et il y a des choses qui faisaient pas sens, il y avait des choses qui étaient totalement écartées, donc il avait décidé d'abandonner l'anglais pour récupérer une autre langue. Et je trouve que juste cette démarche, ça montre bien à quel point en fait les mots structurent notre. Enfin, c'est logique. J'enfonce une porte ouverte, vous allez me dire, mais les mots structurent notre pensée en fait. Et comment les mots peuvent être des outils de domination ou à l'inverse, les mots peuvent être des outils de libération aussi, d'émancipation. Et je trouvais ça très... Enfin, cette démarche, vraiment, ça m'avait vraiment parlé. Puis ça faisait aussi référence à... Voilà, comme on a... En France, la construction de la nation au 19e siècle, c'est aussi passé par
l'uniformisation du langage.
C'est ça, la destruction des langues régionales, etc. Donc, c'est pour ça que les détracteurs, les gens qui disent la langue inclusive, vous êtes des militants et tout, j'ai envie de dire, non mais attendez les gars.
C'était tout un projet politique, quoi, clairement.
Bah oui.
Mais on voit bien que toutes ces polémiques aussi, on voit bien tout le côté du pouvoir des mots, justement. Parce que, un tel emballement autour des mots, c'est ce qu'on disait juste avant ensemble. Mais ça révèle bien qu'on touche à quelque chose qui touche au privilège. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure.
Ouais, c'est clairement ça. Enfin, pareil, comme ce que tu disais, le langage comme outil d'oppression, etc., et de domination. Enfin, c'est aussi, le langage, il nous préexiste avant qu'on naisse. Donc, en fait, même avant de naître, on est déjà nommé. Et à un moment donné, il exerce quand même un pouvoir immense, en fait, sur la façon dont on va se nommer, dont on va être nommé, dont on va nommer les choses. Et c'est hyper important, de créer du coup d'autres mots pour pouvoir les nommer d'une autre manière et en fait peut-être décaler les curseurs et je sais pas où je voulais en venir, mais voilà, et j'ai perdu le fil.
Je peux rebondir si vous. Mais je trouvais que c'était vachement intéressant ce que tu disais et que c'était aussi un moyen perceptible en fait les mots et donc une forme de subjectivité. C'est ça qui nous guide vers certaines manières de voir les choses et les mots c'est en constante évolution de toute façon et l'uniformisation dans la nation c'en est une parmi énormément et du coup c'est à nous de cultiver aussi cette évolution là et à te permettre justement d'avoir un langage qui est plus en lien avec notre monde actuel et avec nos valeurs et nos volontés.
Et puis ça remet aussi beaucoup en question la neutralité, question de la neutralité qui est moi je sais que j'en parle à toutes les conférences depuis le début du mois de juin. Je parle d'Alice Coffin et du génie lesbien où en fait elle démonte ultra bien ce mythe de la neutralité qui est que la subjectivité finalement des personnes qui sont privilégiées. Et en fait ça marche aussi complètement sur ça. Et en plus on peut basculer entre cette question d'écriture non binaire. Donc en fait c'est une certaine forme de neutralité versus j'ai vachement de mal à l'expliquer parce que c'est compliqué, mais en tout cas, ça va contrer ce mythe-là de neutralité en fait, des mots et du masculin qui l'emporte sur le féminin, etc. Quoi.
Oui, c'est clair. Enfin, le masculin n'est pas du tout neutre. Enfin, puis il y a plein de recherches là-dessus où dès l'enfance, sur le langage, à l'école, on propose des mots de manière, des mots masculins. En fait, oui, les enfants pensent masculin et pensent pas neutre. Enfin, on voit que ça construit aussi tout un tas de systèmes de représentation qu'on intègre dès le début de notre apprentissage. Et oui, le neutre n'existe pas.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Je pense qu'on va peut-être passer. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public, mais ou en ligne. Je ne sais pas si vous voulez en faire passer.
En ligne, on n'a pas eu de questions, mais en revanche, s'il y en a dans la salle, on fait passer le micro. Alors, parlez bien dans le micro, parce que comme c'est en direct, vous serez enregistré.
Moi, c'est peut-être une remarque plutôt. Vous m'entendez ? Ouais. Peut-être une remarque. Alors, je ne l'ai pas formalisée de manière très claire. Je vais essayer que ça sorte tel que je l'ai pensé tout à l'heure par rapport aux espaces qui nous sont donnés sur les réseaux sociaux. C'est un espace où le contrôle n'est pas encore très bien établi, du coup, des espaces qu'on peut s'approprier. Mais ce que je me disais quand vous en parliez tout à l'heure, c'est que ça commence en fait. Il y a des posts qui sont écrits en écriture inclusive qui sont déjà supprimés et dont les comptes aussi sont signalés, voire supprimés. Et peut-être pour prolonger ma remarque, est-ce que vous, dans vos travaux respectifs, il y a des choses comme ça que vous pouvez observer sur des espaces que vous avez créés vous-même ou dont vous êtes réappropriés et qui finissent par être contrôlés de nouveau par une forme de pouvoir qui est dominante aujourd'hui.
Kémis ?
Enfin, moi, ça m'est, enfin, comment dire, c'est pas que ça m'est pas arrivé, mais tout ce qui est sur la question du contrôle et de cette narration en fait des réseaux sociaux comme un espace qui serait bienveillant pour les, j'allais dire minorités, mais c'est pas le mot en fait, c'est les personnes qui sont marginalisées. Il y a eu les femmes grosses qui ont été shadowbound, donc sur Instagram, c'est-à-dire qui ont été masquées en fait, parce qu'elles se mettaient d'une certaine manière. Et bon, je pense que tout le monde était sur Instagram, on a déjà vu plein de fois des femmes qui sont minces, qui sont en maillot de bain, etc. Elles se font pas shadowbound, même s'il y a des problématiques aussi. Et je pense que vraiment, ça nous c'est vraiment intéressant de justement de sortir de l'idée que les plateformes, donc des plateformes privées, sont c'est la route privilégiée pour justement avoir ces espaces. Parce que ce que vous dites, excusez-moi, je parle un peu longtemps, mais ce que vous dites, c'est très intéressant de se dire, c'est des espaces qu'on a, mais en fait on n'est même pas propriétaire de ces espaces en fait, quand on vraiment on y réfléchit. Je sais pas ce que vous faites, moi j'avoue que je lis pas toutes les conditions générales d'utilisation et de vente, c'est pas bien, mais je le fais pas. Mais du coup, ça montre bien que parfois il y a un peu. Et en plus, souvent il y a une forme d'hypocrisie de ces plateformes qui essaient de se vendre comme justement des espaces où c'est là où les choses se passent, c'est là où on a accès à des discours subalternes, etc. Mais en fait, c'est pas du tout des plateformes. Bah, on parlait de la neutralité, souvent c'est pas des plateformes neutres et ça me pose question quand même que il y a des comptes qui sont supprimés plus facilement que d'autres, parce que la question du troll et des cyberharcèlements est toujours pas réglée hein, sur ces plateformes. Donc comment ça se fait que pour supprimer un bout de téton ou du gras du dos, ça va vite, mais par contre pour supprimer des trolls qui vont harceler des féministes et des militantes antiracistes, ça on nous dit encore ah non mais attendez, on est en train de travailler sur la question. Donc ils nous appartiennent pas, ces espaces. C'est horrible à dire parce qu'on a envie de se dire c'est à nous, on a réussi à créer une communauté, etc. Et on est en connexion, c'est vrai, mais ils nous appartiennent juste pas en fait. Ils appartiennent à Mark Zuckerberg.
Enzo, Iris, vous saviez vous pour l'écriture inclusive?
Non, pas du tout.
Moi je savais pas du tout non plus.
Non, je savais pas que ça commençait à être supprimé sur les réseaux. Mais c'est vrai que oui, en fait, les réseaux, ils ne nous appartiennent pas. Et si on veut, en fait, il faut s'autonomiser et aller avoir son serveur et puis commencer à coder, etc. Enfin, nous, c'est ce qu'on a fait pour le guide. On a tout codé from scratch, quoi. Et dès le départ, on voulait rester sur des choses qui étaient libres. Même dans les outils qu'on utilise, on utilise aussi beaucoup de... Enfin, tout ce qui est... pour prendre des rendez-vous, etc., etc. Enfin, on utilise aussi beaucoup de logiciels qui sont libres, enfin de domaine public, du coup. Et c'était une question hyper importante dès le départ qu'on a essayé de contourner, en fait, pour être justement indépendant des plateformes et de tout ça.
Ouais. Concernant Sensor, pour la petite histoire, on est en pleine campagne de financement participatif et en fait, on se rend compte en pleine face là de ce problème-là, puisque forcément, on utilise des mots-clés LGBTQIA+, féministe, politique, et en fait, c'est très compliqué à gérer parce qu'on se rend compte qu'on est shadowban, donc en fait, on voit rien. Et pourtant, on essaye de rentrer dans les codes, on essaye de faire du post sponsorisé pour rentrer dans les clous et pour essayer de trouver un petit chemin sur ces plateformes qui, effectivement, ne nous appartiennent pas. Et on se rend compte que c'est très compliqué. Et en fait, dans cette question de créer des espaces inclusifs, on a des bâtons dans les roues constamment, quoi. Donc la question, c'est vraiment comment on fait pour répandre un peu toutes ces idées-là. Alors on essaye de faire des conférences un peu, on essaye de voir les gens en vrai, de faire des soirées, mais il y a une constante réflexion sur où lutter, où écrire, où publier, où diffuser, quoi. Mais c'est sûr que c'est un énorme problème, ouais.
Et après, je trouve que c'est aussi intéressant ce que tu dis quand tu dis qu'il faut rentrer dans les clous. Ça aussi, du coup, ça a un impact aussi sur... je pense à beaucoup d'artistes, ça a un impact aussi en termes de pratique artistique, en fait. de qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que du coup, quand t'es sur les plateformes, et que du coup tu rentres dans un peu, parfois malgré toi, dans ce truc de, ben, du coup, il faut être visibilisé, etc. Ben, après, je veux pas parler pour tout le monde, mais je pense que ça, enfin, c'est une intuition que j'ai, ou une hypothèse. Je pense que ça joue, en fait, sur ce que tu proposes aussi en termes de contenu artistique, militant aussi. Comment tu te... Enfin, je pense qu'il y a une réflexion aussi à avoir sur comment justement tu dois te présenter pour justement rentrer dans les clous. Enfin, je trouve que c'est une... Parce que tout à l'heure, on parlait d'espace de libération, etc. Et on voit bien, en fait, là, il y a vraiment une... Bah, justement, un bel exemple de ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, de comment on est aussi restreint, en fait.
Ça par... dépend.
Pardon. Non, pas de souci, par les... J'ai envie de dire les distributeurs, mais c'est pas les distributeurs, quoi. Mais un peu, quoi, les distributeurs de contenu, quoi.
Ouais, en fait, ça me faisait penser aussi à une association, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Contemporaine, et qui met beaucoup en place des sessions pour les jeunes artistes femmes et non-binaires, des ateliers pour savoir remplir un dossier de subvention, pour savoir vraiment savoir respecter les codes d'un document PDF avec ta candidature, enfin... Et je trouve ça à la fois super bien, parce que c'est comme ça que ça marche. À la fois, tu te dis, mais c'est difficile, du coup, quand t'es autodidacte ou quand tout n'est pas de ton côté, tout ne va pas dans ton sens. C'est super dur de savoir maîtriser ces codes-là, quoi.
Ouais, et là, ton droit à l'expérimentation, il est limité.
C'est clair.
On n'apprend pas aux Beaux-Arts non plus à faire ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Déjà, merci pour cette conférence. Moi, j'avais une question, je pense que c'est un peu lié à ce que vous venez d'évoquer. En tant que personne qui s'intéresse au féminisme et à toutes les problématiques liées au genre, à la politique, à l'afroféminisme, je me pose beaucoup la question de l'entre-soi, des bulles artistiques, des bulles militantes. Et je voulais vous demander, justement, même par rapport aux réseaux sociaux, à ce truc de rentrer dans les clous et en même temps créer ces chemins indépendants. Est-ce que vous vous posez la question de comment sensibiliser ou toucher des personnes qui, justement, n'ont pas fait vos études ou n'ont pas réussi à atteindre ce domaine de la poésie, par exemple, qui est tant perçu comme un domaine élitiste? Je vais vous demander comment... Est-ce que vous posez cette question dans votre travail de toucher un maximum de personnes ou de personnes d'horizons divers ou si c'est, voilà, si c'est une question que vous vous posez et comment vous y répondez dans vos réflexions. Merci.
Je pense que c'est pas non plus central vraiment dans la, quand on commence à créer, expérimenter, même si ça l'est à un moment donné. Enfin, le guide, c'est vraiment aussi de la vulgarisation qu'on a faite, mais on part peut-être pas avec ça comme but et comme objectif, mais plutôt aussi d'abord l'objectif de, enfin, nous, de nous émanciper, de nous amuser aussi par là. Et ça vient peut-être plus dans un second temps, à un moment donné, de qu'est-ce qu'on fait de tout ça, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on donne.
Oui, et puis nous, c'était vraiment basé sur la démocratisation en école d'art, quoi.
Pour le coup, moi, j'y pense. Mais je pense que c'est parce que, comme je disais, je suis autodidacte, j'imagine. Après, c'est sûr que... comment ? Ça fait beaucoup de choses à penser pour un artiste. une artiste, une poétesse. Donc du coup, c'est vrai que... J'y pense. C'est pas que j'y pense, parce que je pense que moi, dans ma personne, c'est aussi... je pense que c'est plus facile d'y penser quand on est passé par certains chemins, quand on est passé par certains espaces, quand on fréquente encore certains espaces, et même juste géographiquement parlant. Je veux dire, il y a une tentation de la bulle artistique, parce que franchement, c'est tellement confortable aussi de se dire, ben là, je veux penser juste à mon art et qu'il n'y a pas 10 000 voix qui me disent, bah oui, mais en même temps, il faut que tu penses à ça, et en même temps, il faut que ce soit accessible, et en même temps, tu as ton éditeur qui dit, non, mais attends, il faut que j'arrive à le vendre, et en même temps, il y a plein de questions qui sont je pense, compliquées à gérer, et puis les questions de légitimation et tout. Et donc, encore une fois, dire j'y pense, c'est intrinsèque à ce que je fais. Ensuite, je pense que je suis très, certains diront, indulgente envers moi-même, mais je pense que je suis quand même assez bienveillante, parce que il n'y a qu'une journée et qu'il n'y a que 24 heures et que je suis un être humain et que la perfection c'est impossible. Enfin, c'est pas, ça fait pas partie de l'expérience humaine, j'arrête pas de dire cette phrase. Mais c'est vrai que j'y pense. Mais je pense qu'après, la question c'est pas forcément moi ce que je peux amener, c'est comment on fait pour que les gens créent. C'est même pas qu'ils viennent, c'est qu'ils créent aussi. Et comment on fait pour que, bah, ils se sentent légitimes à créer ? C'est ça l'objectif. Moi, parfois, ça me fait plaisir quand on me dit, bah, moi, j'aime pas du tout la poésie, mais en fait, les thématiques, ah ouais, là, je me suis dit, ok, bon, je vais tenter le coup. Ah, t'as mis une couverture d'une femme noire, enfin, c'est une peinture d'une femme noire. Ah ouais, peut-être qu'en fait, c'est potentiellement fait pour moi, ou voilà. Après, l'objectif, c'est pas que moi, je pense que, en tout cas, mon idée, c'est pas juste que moi, je donne, c'est, enfin, que je donne, enfin, comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi un côté où genre j'ai juste envie de m'amuser. C'est un truc très égocentrique. Je pense que les artistes sont très égocentriques. Ils veulent faire leur truc à eux et ensuite on verra. Mais et c'est important et on a le droit aussi. Mais l'objectif c'est pas juste de se dire ben qu'est-ce que nous on peut apporter à des gens qui n'ont pas, mais comment les gens ils peuvent se dire mais en fait nous aussi on a.
Sur la question des médias et notamment de Censored, parce qu'en fait, on a quand même un positionnement qui est assez hybride entre expérimentation graphique à l'intérieur. Enfin, on n'est pas positionné en tant que média de façon classique. Et on est vraiment à mi-chemin entre l'engagement et aussi une démarche artistique. Et ces questions, elles nous traversent pas mal. On a créé déjà parce qu'on a un objet papier qui est payant. Forcément, ça pose la question de l'accessibilité sur des questions féministes et on est toujours en dilemme de est-ce qu'on fait un truc gratuit ou exclusivement sur les réseaux par question d'accessibilité ou est-ce que aussi on essaie de valoriser aussi des productions bon, les choses font que du coup bah, on fait les deux puisqu'on fait ce magazine papier mais qu'on fait aussi une newsletter pour être ultra accessible mais c'est vrai que c'est une question qui est compliquée et surtout c'est un choix à faire. Moi, j'admire énormément les journalistes, les auteuristes, les activistes qui prennent vraiment et qui dédient leur quotidien à aller vulgariser sans diluer, démocratiser, être là pour répondre aux mêmes questions tout le temps. Et c'est normal, c'est vraiment c'est un job à plein temps. Moi, en ce qui me concerne, et je pense peut-être Apolline sera d'accord, mais l'idée, c'est peut-être pas forcément d'aller rendre accessible, mais déjà par le fait d'exister, on se positionne et on veut essayer de montrer l'exemple à notre petite échelle en fait. Et plus je réfléchis, plus je me rends compte qu'aussi parfois c'est par du local que les choses elles marchent peut-être plus. Enfin, c'est un questionnement que j'ai. Je sais pas la réponse, mais c'est un questionnement que j'ai.
Après, je vais juste rebondir. Après, je te laisse. Excuse-moi. Je viens juste de penser à quelque chose aussi, de se dire que c'est pas juste la responsabilité des auteurs, des autrices. C'est la responsabilité. Parce que, enfin, je veux dire, on paye tous des impôts. Enfin, beaucoup de gens payent des impôts. Il y a des bibliothèques. Enfin, c'est aussi la responsabilité de tous les acteurs culturels d'un territoire, je pense, et les acteurs et les actrices culturelles d'un territoire, bah, de faire co-construire aussi des productions artistiques. Et je pense que. Parce que sinon, c'est. Enfin, je pense que c'est. Enfin, je vais dire ça dans un autre sens. Partager la responsabilité, ça rend la tâche moins difficile. Parce que. Dans un point de vue d'artiste, franchement, pense à tout ça, mais tu fais rien. Hein. Enfin, franchement, au bout d'un moment, tu dis non, mais c'est pas assez ceci, c'est trop cela. Moi, j'ai envie de faire mon truc, mais donc du coup, je pense que ouais, il y a et ce que tu dis, c'est un peu ça aussi, parce que parfois, tu te retrouves face à des impératifs qui sont différents. T'as envie de faire un truc gratuit, mais t'as envie de payer les auteurs. Et si tu veux prendre des auteurs, des autrices qui viennent de milieux marginalisés, bah, il faut encore plus les payer, parce que c'est encore plus important qu'elles puissent se dire « Bon, bah, mon travail, il vaut quelque chose. » Donc, comment on fait, quoi ?
Oui, bah, je voulais aller dans le sens, justement, de partager la responsabilité. Non, t'inquiète pas, mais c'est très bien. Mais juste, en fait, attaquer sous l'angle de l'espace mental aussi, c'est qu'en fait, on a déjà assez à penser, etc. Enfin, on peut pas avoir tout le temps dans la tête le petit truc qui dit oui mais pense pédagogie, enfin c'est invivable clairement et oui enfin il faut clairement partager les, enfin c'est très bien comme formule, je te la piquerai plus tard, partager les responsabilités. Merci.
Mais je pense que ça nous met moins de pression aussi en tant que, enfin Et c'est des conversations, et d'ailleurs, vous êtes dans un collectif, la collective, justement, en fait, des conversations qui sont importantes, je pense, à avoir, parce qu'on individualise beaucoup les choses, et quand t'es artiste aussi, il y a un peu le côté, genre, individualisation. C'est pour ça qu'il faut dire travailleur, travailleuse de l'écrit, ou je sais pas. Parce que, en fait, quand t'individualises, bah, l'impression, elle tombe beaucoup sur tes épaules. Alors qu'en fait, si t'es dans des espaces collectifs, si tu penses collectivement, si tu penses en termes de, peut-être à une échelle un tout petit peu plus haute, pas forcément au niveau de l'État, même si bon, ils ont des responsabilités, mais tu vois, comment tous les acteurs peuvent faire en sorte de faire ça, et ben du coup, ça devient moins oh là là, est-ce que je suis une bonne militante ou est-ce que je suis une bonne artiste, etc. Ça devient comment nous, en tant que société, on fait pour démocratiser. La poésie et les pratiques artistiques en général.
D'autres questions ? Alors, moi, je vais vous en poser une. Elle est peut-être un peu bateau et un peu actuelle. Justement, ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est mis à propos de ouvrir un espace et se créer de l'espace, bien sûr, pour moi, ça résonne un peu avec la situation actuelle, la pandémie, le confinement. Mmh. Donc, justement, dans cette période-là, est-ce que on peut créer de l'espace, comme on crée, et puisque par rapport à ce que vous venez de dire aussi, on a été soumis collectivement un peu aux mêmes règles. Mmh. Donc il y avait à la fois cette pensée collective, générale, et en même temps chacun était chez soi, confiné, sans possibilité forcément de dialoguer de manière constructive. Donc aussi bien pour du graphisme que pour de la poésie, est-ce qu'on arrive à créer et comment on crée en situation de pandémie ?
Moi, j'ai. Alors, pendant le premier confinement, qui était le plus sévère, hein, et en même temps le plus choquant, et du coup qui permettait de sortir plein de choses, j'ai eu l'impression en tout cas. Moi, j'ai proposé un atelier d'écriture digitale sur Instagram. Voilà, ce que j'ai dit sur Instagram, ça vaut toujours. Hein. Je veux dire, c'est pas un outil qui est parfait, c'est pas du tout un choix qui est parfait. Mais c'était un espace où moi j'avais du mal à créer parce que j'étais angoissée, j'étais super anxieuse. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de retrouver un peu une espèce de communauté. Enfin, communauté. Un échange, un partage. Et aussi à un moment de se dire, bon, bah, on est tous arrêtés. Bon, à ce moment-là, enfin, non, pas beaucoup. Enfin, il y avait des gens qui n'étaient pas arrêtés. Il y a des gens qui, malheureusement, ils ne pouvaient pas le faire. Mais beaucoup de personnes étaient disponibles, entre guillemets. Et donc, du coup, ben, créons ensemble. Et en plus, là, il n'y a aucun enjeu parce que justement, ben, on ne sait pas ce qui. C'est juste pour le plaisir de créer, en fait. C'est juste pour le plaisir d'écrire et de parler d'écriture, etc. Donc, moi, c'est un outil que j'ai utilisé. Enfin, c'est comme ça que j'ai essayé de poursuivre cette volonté de discussion créative, je pense, entre beaucoup de personnes. Encore une fois, ce n'est pas parfait, mais. Mais ouais, j'ai essayé d'utiliser en fait les outils qui étaient à ma disposition. Je fais du bricolage artistique, on va dire. Et finalement, ça a fait. Il y a des choses très intéressantes qui sont sorties. Je crois que j'étais pas la seule d'ailleurs à avoir eu ces idées parce que, comme beaucoup avec les idées, il y a beaucoup de gens intelligents sur les planètes, donc on est beaucoup à avoir les mêmes idées. Mais du coup, je pense que c'est comme ça qu'on a pu aussi créer. Après, c'était vraiment pas simple parce que déjà, il y avait pas l'espace mental aussi. Comme je disais, j'étais anxieuse. Bon, et je voulais peut-être écrire sur le confinement, mais voilà quoi. Et je pense qu'aller vers les autres, aller dire créons ensemble, ça m'a aidé pour le coup. Je pense que c'était vraiment le manque de contact humain, clairement, qui parlait aussi.
Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, qui est intéressant, sur l'espace mental. Ça me fait penser, pendant le confinement, je lisais un article de Costanza Spina, qui est un média qui s'appelle Manifesto 21, et qui avait titré son article en disant pour les artistes et les journalistes, la liberté de se taire, aussi pour questionner cette injonction à créer, à produire du contenu dans des circonstances qui sont complètement bizarres, en fait. Et donc, je voudrais, je trouve super qu'il se passe plein de choses aussi pendant ces confinements. Je crois que vous avez fait beaucoup de choses. Justement, dans cette période-là, nous, le magazine, c'était aussi un petit peu pareil. Mais en même temps, je voudrais aussi nuancer en disant que dans ces périodes-là, on a aussi le droit de ne rien faire, en fait, aussi, quoi, qui est très important.
Totalement.
Après, nous, enfin, moi, je sais que, par exemple, on a fait plein de choses au niveau du Club Med, mais ma pratique artistique personnelle, elle est complètement dégringolée totalement. Et justement, enfin, en fait, comme on était confinés, c'était, il y avait ce côté fun de se retrouver et de faire des choses ensemble. On a fait des podcasts, mais on s'est vraiment marré. Enfin, c'est super drôle à faire des podcasts. On pensait pas. Et du coup, ça permettait de retrouver un peu le vivre ensemble, quoi, et le collectif, en ayant des choses constructives, mais c'était plus ça. Enfin, moi, après, seul, j'ai pas pu du tout rien faire.
Ouais, c'est vrai que au final, c'était même pas une injonction. On a beaucoup créé, mais parce qu'on avait envie. Et puis, enfin, moi, clairement, ça m'a gardé la tête en dehors de l'eau tout le confinement de faire ça. Et d'avoir nos réunions en visio, etc. Et en fait, de se voir, de parler et de créer des trucs. En fait, se dire, bah, en fait, finalement, là, on est capable de rien faire. On n'y arrive pas. On n'a pas la tête à ça. On prend cet espace-là qui est disponible et on essaye de décaler un peu le truc et d'en faire un truc qui, au final, sera super. Et voilà, c'est vraiment essayer de rebondir avec ça qui a été bénéfique, je crois.
Oui, être sur des choses plus concrètes aussi. Enfin, bon, c'est pas très concret, peut-être, le langage inclusif, mais pour nous, ça l'était plus que notre pratique à côté.
D'autres questions ?
Oui, pardon, j'ai posé une dernière question. Je ne sais pas si ce sera la dernière. En tout cas, ce sera ma dernière. En tout cas, merci pour votre intervention. Moi, j'avais juste une question par rapport à l'esthétique et la possibilité de construire de nouveaux imaginaires. Est-ce qu'à chaque fois, dans vos travaux respectifs, est-ce que vous pensez la possibilité de vous libérer du travail de déconstruction ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'à chaque fois, vous pensez les systèmes construits ou est-ce que vous avez la possibilité de vous libérer complètement et aussi de vous amuser vous chacun dans vos travaux
de manière plus individuelle, enfin, je suppose du coup.
Oui, là c'était plutôt individuel.
Oui, mais pas forcément dans les pratiques. Oui, moi je tourne un peu en boucle là-dessus tout le temps.
Moi aussi.
Oui. alors, est-ce que la question c'est de manière très brutale, et peut-être que vous m'excuserez si je trahis vos propos, hein. Est-ce que la question c'est, est-ce qu'à chaque fois vous parlez de ces questions de système de domination dans votre travail ? Est-ce que c'est ça la question ? Pour pas que je réponde à une autre question.
Oui, c'est plus ou moins ça. Enfin, ouais, est-ce qu'à chaque fois vous le psychologisez ou est-ce que il y a des moments où vous en libérez totalement et vous vous sentez après, a posteriori, plus productif. Enfin, je ne saurais pas comment le dire.
Déjà, j'aurais pas dit psychologiser. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, parce que parfois, je parle d'autre chose et ça revient, mais parce que c'est un endroit de... Comment dirais-je, c'est quelque chose qui fait partie de mon expérience de vie et en tant qu'artiste. Et je pense que... Est-ce que la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une injonction à tout le temps parler de ces sujets ? Est-ce qu'on peut parler d'autre chose ? Peut-être. Moi, je... En fait, j'ai pas envie de mentir. La première chose que j'aimerais dire, c'est non, mais oui, je parle pas que de ça. Non, je parle pas que de ça. Comme si parler que de ça, c'était quelque chose que je devrais pas faire. Je dis pas que c'est ce que vous dites, hein, mais voilà. Et après, j'ai aussi envie de me dire, non, c'est vrai que même quand je parle pas directement de ça, c'est évoqué,
c'est en sous-texte.
C'est en sous-texte, ouais, c'est comme une bande-son derrière, en fait. Donc, mais en même temps, j'y trouve de la joie. Donc, du coup, parfois, il y a des sujets qui sont très difficiles et je vais pas toujours parler des questions de racisme, je vais pas toujours parler des questions de violence policière, c'est sûr, parce qu'au bout d'un moment, voilà. Mais par contre, ce que ça me fait, comment je vois le monde, comment je conscientise la joie, etc. Ou même d'autres sujets, sur l'amour, par exemple, sur le désir, etc. Oui, ça va ressortir. Par contre, mais je pense pas que ce soit une question de se libérer ou pas, en fait. Enfin, c'est l'usage, les mots qui sont utilisés, du coup, ça m'interpelle. Parce que je me dis, je me sens pas emprisonnée, en fait. Quand c'est en sous-ton, quand c'est en bon de son, je me sens pas du tout emprisonnée. Et j'ai peur parfois qu'il y ait ce. Qu'il y ait cette croyance trompeuse que ces sujets, ils sont restrictifs ou étroits. Alors que, waouh, c'est tellement vaste. Waouh, on peut mettre le monde dedans. Donc, ça va, j'ai de quoi faire déjà. Et donc, du coup, je me sens pas. Je crois que je me sens pas à l'étroit. Mais tout le monde est. Je sais que tous les auteurs et toutes les autrices pensent pas comme ça. Je parle de moi, évidemment.
Moi, je suis plutôt d'accord avec vous aussi. Enfin, et avec tout le monde. Mais. Sur la question de, bah, il faut pas se détacher. Enfin, on peut pas se détacher d'un. Enfin, on est des sujets, quoi. Et ça renvoie à la question de la neutralité, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure. Je trouve, c'est que, je sais pas si c'est une question, en fait, de vouloir forcément de se libérer de ce sujet, parce qu'en fait, on crée, on écrit, on parle de manière située. Donc, c'est quelque chose qu'il faut assumer, je pense.
Ouais. Ouais, enfin, mais c'est, enfin, je reviens aussi sur la nécessité, en fait, juste, enfin, moi, je sais que c'est quelque chose de l'ordre limite du vital, et j'essaye aussi de tisser des rhizomes, et quand je prends un point, ben, en fait, je vais un peu plus loin là-bas, puis je continue là-bas, etc., etc. Et en fait, c'est, enfin, il y a pas de réponse, il y a que des questions tout le temps, enfin, presque, je sais pas.
C'est tellement vaste. Enfin, c'est tellement vaste. C'est tellement pas enrichissant, parce que non, mais si, parfois ça l'est en plus. Mais c'est vaste, en fait, et on apprend toujours des choses. Après, est-ce que dans mon monde idéal, mon arrière-petite fille, elle posera plus ses questions? Oh, oui, j'espère, franchement. Franchement, je sais que ça arrivera pas, malheureusement, mais franchement, ouais, j'espère. Mais bon. Pour arriver à ça, il faut déjà tout déconstruire, et ça va prendre du temps. Donc, mais après, ça, c'est, je pense que c'est aussi c'est vraiment un ressenti individuel. Je sais qu'il y a des gens qui ont abordé des questions et qui décident de les mettre de côté, puis d'aller voir autre chose, qui n'ont pas l'air directement, enfin, qui n'ont pas forcément l'air d'avoir un. Il n'y a pas forcément un rapport tout de suite, même si souvent, franchement, j'ai l'impression de voir les liens. Mais donc c'est un truc très personnel, hein. Ça se trouve dans 10 ans je dirais, ouais, non, j'ai plus du tout envie de parler d'afroféminisme, j'ai envie de parler d'autre chose, je sais pas quoi. Mais bon, l'afroféminisme, c'est tellement, enfin, encore une fois, c'est toutes ces questions, enfin, je veux dire, c'est tellement vaste, et en fait peut-être qu'on les, enfin, ouais, c'est plus vaste qu'on le croit, je pense.
Et pour rebondir, enfin, ça, je viens d'y penser, c'est super bête, mais en fait, c'est toutes ces questions d'intersectionnalité qui font qu'en fait, on crée des ponts. Enfin, toutes ces questions se relient entre nous et du coup, bah, nous constituent totalement, parce que quel que soit le sujet, bah, ça va le ramener à un autre, et c'est comme ça que ça fonctionne, comme disait Enzo, de manière très rhizomélique au final.
Je sais pas s'il y a d'autres questions. Si c'est pas le cas, je vais vous remercier toutes et tous de nouveau. Je voudrais faire une petite parenthèse pour faire la promo de Sensord. On est en pleine campagne de financement et le prochain numéro est disponible en précommande. Ce sera sur un thème de la transmission qui a de grands liens avec la poésie et l'écriture. Et d'ailleurs, on a été très fiers d'inviter Clara Sambo, donc qui est graphiste et que je crois que vous connaissez, qui va nous faire tout plein de glyphes pour qu'on puisse non seulement, en fait, parler d'écriture inclusive, mais l'adopter, en fait. Je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est de un peu passer à l'acte. Donc voilà, merci beaucoup à toutes et à tous, et Sébastien, je vous rends la parole.
Je reprends la parole juste quelques secondes, en tout cas pour vous remercier, Clémentine, pour l'animation de cette table ronde, puis merci aussi beaucoup à Kiyemis, Iris Schleinitz et Enzo Logarec pour leur intervention ce soir, qui se complétait effectivement très très bien. Je remercie bien sûr aussi nos collègues de la régie audiovisuelle qui ont permis que cette rencontre soit diffusée en direct sur nos réseaux sociaux de manière confortable et du coup soit enregistrée, va être disponible immédiatement après cette rencontre sur notre compte Facebook et sera disponible en replay assez vite sur notre web télé et dans notre chaîne YouTube. Je remercie aussi, donc bien sûr, la revue Sensord, avec qui on a construit cette soirée. Et puis, bien sûr, le partenaire qui nous a accompagnés pendant tout ce cycle, donc la newsletter Les Glorieuses, à laquelle vous pouvez vous abonner. Alors, j'ai oublié de préciser au début de la rencontre, je voulais excuser Isabelle Cambourakis, qui en principe aurait dû être là ce soir, mais qui a eu un empêchement de dernière minute. Je vous le dis d'autant plus que la librairie du Centre a mis en avant une bonne partie des productions de la collection Sorcière des éditions Cambourakis. Donc, vous pouvez aller immédiatement après cette rencontre à la librairie du Centre pour acheter toute la collection Sorcière, si vous le souhaitez. Pour terminer, je voulais aussi vous dire que si vous voulez compléter cette rencontre sur les luttes féministes donc qui s'est poursuivie depuis 6 mois, depuis le mois de janvier, vous pouvez télécharger sur le site de la BPI, le site web de la BPI, une bibliographie sélective d'un certain nombre d'ouvrages dans lequel vous retrouvez les ouvrages notamment des intervenantes des rencontres précédentes. À très bientôt, et comme c'était la dernière rencontre proposée par la BPI en cette saison, on vous retrouve à la rentrée. Très bon été. Au revoir.